dans différents transports.
C'est scandale.
Voilà, et sur différents périphes, à moins que ce soit dans le métro, le RER, le bus, l'avion, l'hélicoptère. Donc, de toute façon, ce matin, je pense que c'est pénible pour tout le monde. Donc, bravo d'avoir d'être venu à l'heure. Hein. Dans 5 petites minutes, nous commençons, c'est le premier, et bienvenue à ces 13e assises nationales contre le négationnisme. Bienvenue à tous les jeunes qui sont dans la salle, c'est-à-dire à tout le monde, en réalité. Oui, c'est beau gosse. Et en particulier aux étudiants. Alors, je vois beaucoup d'étudiants de différentes institutions, donc je les salue d'ores et déjà. Je commencerai par ceux de la PSTB, donc Paris School of Technology and Business. Donc, merci beaucoup, c'est la classe que vous soyez là. J'en profite pour remercier d'ores et déjà Armand Derrick, parce qu'en réalité, sans Armand, ces assises ne se tiendraient sans doute pas, lui qui dirigea glorieusement la PSB, donc la Paris School of Business, voilà. Et l'ESG auparavant, et qui m'a toujours suivi. Il est là, il rougit avant, il m'a toujours suivi. Ça fait 13 ans qu'il est là, il reprit donc physiquement, en dépit de son agenda de ministre du Tourisme. Et donc merci beaucoup Armand, tu es l'âme de ce colloque, et vraiment c'est très sympa, et tes étudiants nous font l'honneur aujourd'hui. Merci beaucoup bien sûr à l'ICRA, et Mario est ici, le président de l'ICRA en personne, Maître Stassi qui interviendra dans un instant. Merci au comité des justes de Yad Vashem. Pierre-François Veil, qui le dirige, nous rejoindra dans quelques instants. Merci et bravo à l'Histoire, le mensuel L'Histoire, dont je vous présenterai tout à l'heure la couverture de ce mois-ci, consacrée exclusivement à l'Ukraine, c'est un numéro spécial, qui nous suit aussi depuis 13 ans maintenant. François Elbron, Mémorial de la Shoah, le vice-président, qui interviendra lui en fin. Clôturera le colloque en fin d'après-midi. Le collectif VAN, Vigilance arménienne contre le négationnisme, et c'est la Papazian qui en est la présidente émérite, interviendra lors d'une des tables rondes. Ibuka, qui signifie souviens-toi, en Kinyarwanda, si je ne me trompe pas, je crois que je ne me trompe pas. Étienne, qui en est le président France, interviendra aussi dans l'une des tables rondes dans un instant. La DILCRA, qui nous suit depuis plusieurs années, et notamment la préfète en Dijon, qui doit être présente, qui arrivera tout à l'heure. Et je ne crois pas avoir oublié qui que ce soit. Alors évidemment, Rudi Reichstadt, qui m'a particulièrement aidé cette année, hein, qui est tout à fait partie prenante, et qui dirige Conspiracy Watch. Donc je vous recommande la lecture assidue des travaux. Et Rudi, qui est très dans les travaux et le site, sont extrêmement passionnants, la lutte contre le négationnisme. N'hésitez jamais à aller consulter ces travaux. Bien évidemment, le meilleur pour la fin, Julie Tesson, qui, depuis de très très longues années, me suit. Franchement, sans Julie, je ne suis pas certain que elle dégage, parce qu'elle ne va pas bouger physiquement. Je ne suis pas certain que ces assises pourraient avoir lieu. Voilà, je crois que j'ai remercié tout le monde. J'excuse. La philosophe Cynthia Fleury, qui devait venir cet après-midi pour clore le colloque, et qui est en pleine soutenance de thèse. Alors, on va dire que là, c'est l'argument phare, l'argument massu. Donc, elle nous témoigne toute sa sympathie, et elle viendra sans doute l'an prochain. De toute façon, je la ferai intervenir, et donc vous pourrez, ce sera podcastable, donc ses propos seront, on pourra les trouver facilement. Et c'est une philosophe qui a pas mal travaillé sur ces questions-là, notamment aujourd'hui. Elle sera en soutenance, et elle ne nous rejoindra pas physiquement. Voilà. Le député Benjamin Haddad interviendra en matinée, et bien évidemment, je le remercie pour nous avoir ouvert l'Assemblée nationale. Il était très important, comme pratiquement chaque année, que les assises anti-négationnistes s'inscrivent au cœur de la République. Alors, on est souvent au Sénat, on est souvent à l'Assemblée nationale. On a été naguère à l'ESG, c'était formidable aussi, mais je pense que c'est très important que nous soyons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et le député Benjamin Haddad a immédiatement accepté, je vous remercie encore de visu, de parrainer ces assises. Voilà. Donc on va attendre encore une ou deux minutes, et puis je demanderai à, sans même besoin, finalement tu as raison Marc, pourquoi attendre une ou deux minutes? Quand on a la chance d'avoir Maître Mario Stassi, vous voyez, on n'attend pas. Mais qui disait que le silence qui suit une œuvre de Mozart, c'est l'œuvre de Mozart? Eh bien, les instants qui précèdent Mario Stassi, hein, c'est déjà Mario Stassi. Ouais, tu sais quoi, tu as tout à fait ton bien, franchement.
Non, mais quel numéro.
Alors, c'est alors, Maître Stassi est président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et je précise que c'est une vénérable et honorable dame, née dans les années 1920, et donc une période où il était ô combien important déjà de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. L'avenir proche, malheureusement, ne le démentirait pas. Et c'est aujourd'hui la principale, j'ose pas dire la seule, parce que je me tromperais peut-être, mais en tout cas c'est de loin, ça c'est certain, la principale organisation antiraciste de nature universaliste en France. Et vraiment je tiens à ce terme très important, ce n'est pas, il ne s'agit pas d'une association, d'une communauté, d'un groupe ethno-confessionnel qui défend ses propres intérêts entre guillemets ou sans guillemets, c'est une organisation tout à fait universaliste et qui lutte contre toute forme de racisme et d'antisémitisme, où que ce soit en France et dans le monde. Et donc, vraiment, merci encore, cher Mario, d'avoir accepté de venir. Tu es une... Voilà, on accueille Pierre-François Bell. Tu es très précieux parmi nous. Et oui, il est un partenaire. Il y a l'ICRA, bien évidemment, partenaire des Assises chaque année. Je te cède immédiatement la parole.
Je salue mon ami Pierre-François Bell. Bien, mes chers amis, les propos très sympathiques et très chaleureux que vient de m'adresser Frédéric, outre une amitié sincère qui nous lie, des liens de conscience, de combat, de préoccupation et de valeur qui fortifient jour après jour une amitié et une affection, ces mots très chaleureux sont aussi l'écho et le reflet d'un partenariat particulièrement important pour la LICRA, qui est celui que je loue, que nous louons depuis des années maintenant, avec Frédéric et les Assises nationales contre l'antisémitisme qui l'organisent. Et c'est à chaque fois un plaisir aussi de savoir que cette manifestation s'organise autour et par la présence de jeunes, d'étudiants, d'une école de commerce, d'une école, quelle qu'elle soit, pour bien montrer, insuffler, inscrire dans nos travaux que ce que nous disons s'appuie sur une histoire, s'appuie sur une mémoire, s'enrichit des débats et des actualités contemporaines et sert aussi à préparer le moins mal possible l'avenir que l'on vous proposera et que vous construirez avec nous. Quand je vois, ce n'est pas la première fois que je me retrouve aux côtés de Pierre-François, c'est indépendamment de... Je sais ce que c'est un roi de nous que d'entendre parler de ses parents, mais indépendamment des qualités et du lien qui nous unit, sa mère a un mot qui est un leitmotiv que je vous demande de retenir. Il ne faut pas parler de devoir de mémoire. Il faut évoquer le travail sur la mémoire ou de la mémoire, je ne sais quel est le mot exact. Un travail de la mémoire, c'est aller rechercher dans le passé les causes, la réalité, en tirer des conséquences et en faire des fruits, même à partir d'un mal terrible, pour que l'arbre qui continue de croître donne plus de fleurs que de fruits pourris. Un travail sur la mémoire, pas simplement des images figées, mais une réflexion autour de l'histoire, une réflexion autour de la mémoire. Et lorsque je vois, lorsque j'ai pris connaissance du titre de la conférence de ce jour, Relativiser les crimes de masse en temps de guerre, j'ai eu trois ou quatre idées qui vont structurer ce propos assez bref, rationnel. D'abord, le fait que la LICRA, dès son origine, cette association qui a accueilli les juifs qui fuyaient des pogroms dans les années 25-30, l'Europe de l'Est, la LICRA a toujours combattu ceux qui voulaient réviser l'histoire, ceux qui prenaient un relativisme, relativiser, un relativisme, ceux qui voulaient aussi minimiser les responsabilités des uns et des autres. Et j'ai pu me rendre compte, en regardant et en cherchant dans les archives de la LICRA, que lorsque le sinistre Bardèche, dans les années 40, écrivait son opuscule « Nuremberg et la terre promise », qui étaient déjà les prémices d'une certaine négation de la Shoah, en tout cas de l'amoindrissement, relativisme, de la minimisation du rôle et de la responsabilité des Allemands, des SS, des Allemands nazis. Dès cette année-là, dès cette période-là, la LICRA s'est insurgée pour que la réalité de l'histoire ne soit pas dévoyée et pour qu'on ne recherche pas pour réhabiliter les uns ou les autres, pour des intérêts, j'y viendrai, parfois nationalistes dans certains pays, que l'on n'en vienne pas à minimiser la responsabilité des bourreaux. Et figurez-vous que ce même mouvement de relativisme, on l'a vu et vous l'avez connu, avec, à échelle plus importante avec Forisson dans les années 70, avec celui qui a évoqué un point de détail, avec un autre qui va vous expliquer que Vichy a protégé les Juifs, cette minimisation, ce relativisme dans l'histoire est particulièrement dangereux parce que bien souvent, il n'est pas fait d'ignorance, il est fait d'intention, j'allais dire coupable. À la LICRA, nous avons un très beau magazine qui s'appelle Le droit de vivre, le DDV, je vous incite à regarder sur le site. C'est un magazine qui paraît 4 fois dans l'année, sous la direction d'Emmanuel de Bonneau, qui est un grand historien. Et ce magazine, d'ailleurs, je vous annonce, au mois d'avril prochain, vous allez sur le site et vous pourrez le commander, a comme thème principal la réflexion autour du crime contre l'humanité. C'est dire que le partenariat entre Frédéric et Mario, entre les Assises et la LICRA, entre cette école, le BAM, le collectif, le salut de la NICETA et la LICRA, est inscrit y compris dans les thématiques que nous abordons. Et dans le précédent ouvrage que vous avez là sous les yeux et devant moi, sur l'antisémitisme, il y a tout un article d'un remarquable professeur de sciences politiques qui s'appelle Joël Kotek, dont le titre est « Excuser les bourreaux et salir les victimes ». Et je prendrai un seul exemple qui est, pour que vous compreniez bien, combien est dangereux la notion de relativisme des crimes de masse en Belgique flamande. D'abord, il faut savoir que à Anvers a eu lieu en Europe de l'Ouest le seul pogrom qui a pu être référencié, et en Belgique flamande plus particulièrement a été excusé ce mouvement flamand autonomiste qui a collaboré avec le régime nazi. Et les historiens qui ont succédé à cette période-là, qui avaient un biais qui était la reconnaissance de la nationalité flamande, ont quasi excusé les collaborateurs flamands de la période terrible, ont relativisé leur collaboration auprès du régime nazi, parce qu'ils y ont vu aussi, même si on peut leur reprocher certaines fautes, ça c'est le langage officiel, la reconnaissance et l'avènement d'une nation flamande, d'une revendication nationaliste flamande, ce qui fait que vous pouvez avoir, dans plusieurs villes de Flandre, des hommages rendus au dénommé Cyriel Verchab, qui est un collaborateur notoire, avec des plaques. On a, par exemple, eu des oppositions par une population flamande, au déboulonnage de ces plaques dans certaines rues pour les remplacer par des rues Anne-Franc. Il faut savoir, en relativisant les fautes commises par ses collaborateurs, que l'on est en train petit à petit de réécrire, de tenter de réécrire une certaine histoire, et c'est pour cela que des colloques comme celui-ci sont particulièrement importants. Mais le relativisme, c'est aussi considéré, par exemple, au Rwanda, qu'il y a un double génocide, ou qu'il y a soi-disant une guerre civile, pour mettre sur un même niveau le bourreau et sa victime, alors qu'on sait pertinemment que c'est un génocide abominable, et qu'il n'y a pas eu de guerre civile, qu'il n'y a pas eu de double génocide, et c'est ainsi que parfois, maladresse de langage, peut-être, intention coupable, il y arrive. Certains journalistes, qu'ils se sont vus d'ailleurs après devant les tribunaux, ont pu peut-être inconsciemment écrire qu'on était en face de deux génocides. C'est dire que les mots emportent des conséquences même induites, même parfois sans conscience réelle, sur une écriture, une réécriture insidieuse et progressive de l'histoire. Alors, ce que j'ai presque terminé, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est qu'il y a eu un effet d'accélérateur à la LICRA, nous l'avons constaté, qui a été la période de confinement sur le déchaînement des haines, des mots à l'emporte-pièce, du racisme et de l'antisémitisme, du bourreau que l'on recherchait, par les réseaux sociaux, du fait certainement de l'absence d'interaction. Et on a vu, pareil, les mots ont leur importance, mais on a vu apparaître des termes comme l'apartheid sanitaire, le génocide sanitaire, consciemment, inconsciemment, avec une intention naïve ou avec une intention coupable et intentionnelle, avec certainement parfois des motivations politiques certaines de certains courants qui visent à relativiser l'horreur. Banalisons les termes, relativisons le mal. Et il est vrai que le confinement a eu un effet dévastateur, je le dis, sur l'usage de certains mots, sur l'usage de certaines étoiles jaunes, sur l'usage de certains propos antisémites qui, petit à petit, sont sortis de l'anonymat pour essayer de se banaliser dans la rue, dans les manifestations ou sur des pancartes, on a eu cet effet accélérateur qui attirait l'attention d'associations comme la nôtre, attirait la vigilance, appelait la vigilance, appelait la réprobation et appelle une sanction. Et je terminerai par là. Éducation, vigilance, sanction. Nous avons eu la présentation d'un plan contre le racisme et l'antisémitisme la semaine dernière. Et ce plan, qui vient concomitamment à une directive européenne qui va réguler les réseaux sociaux, concomitamment à cette loi de 2021 dite séparatiste qui déjà prend en considération la responsabilité des hébergeurs à côté des auteurs, bien sûr, de ces propos haineux, banalisant le mal et diffusant un poison, ce plan permettra, si la volonté politique, elle n'est pas évidente, et elle n'est pas évidente, parce que lorsque je parle devant vous, je n'évoque pas, vous l'avez compris, des actes, j'évoque des mots. J'évoque la banalisation du mot. Et la banalisation du mot, pour certains, on dit mot, on dit liberté d'expression, et on dit tout doit être permis. Or, il faut à chaque fois expliquer que le racisme ou l'antisémitisme sont des délits, ce ne sont pas des opinions, que la liberté d'expression, elle s'exprime dans un cadre qui permet l'harmonie et la vie en commun, la laïcité, l'ordre public ou autre, article 10-1-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, vous irez regarder, mesdemoiselles et messieurs, qui donne un cadre respectueux à la liberté d'expression, et l'irrespect, c'est le délit. Pas l'irrespect dans le sens commun, mais le racisme et l'antisémitisme sont des délits. Et vous avez tout un courant politique qui vient dire que le racisme et l'antisémitisme sont des délits, donc ce sont des délits d'exception et pas de droit commun, puisqu'on est dans les mots, on n'est pas dans les actes. Simplement, il faut reprendre notamment le génocide Tutsi. On sait que le mot tue. Et Robert Badinter se plaît à répéter ce que nous répétons avec lui. Les mots sont des fusils chargés. C'est dire que le relativisme est une notion particulièrement importante, particulièrement dangereuse, et que lorsque les Benedetti, les négationnistes notoires, Dieudonné Mbala ou Alain Soral, auront été condamnés plus d'une vingtaine de fois, on s'y approche, sinon on dépasse, je crois, ce nombre de condamnations maintenant, chacun, hein, pas cumulé. Jusqu'à présent, figurez-vous, il était interdit à la justice de décerner un mandat d'arrêt, c'est-à-dire, parler très concrètement, quand on instaura la 20e condamnation, dans le propos notamment du négationnisme, s'est vu décerner une peine d'emprisonnement ferme, justice disant que ça suffit. Non seulement il n'exécute pas ses peines, non seulement il ne dédommage personne, mais il réitère ses propos haineux et négationnistes et multirécidivistes, le juge correctionnel décerne un mandat d'arrêt en complément de l'emprisonnement, c'est-à-dire où que tu sois, la force publique sera à même de faire exécuter la décision. Eh bien, la Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que le délinquant raciste n'était pas un délinquant de droit commun. Et je voulais terminer par là parce que le plan, pour la première fois, demande aux législateurs et aux gardes des Sceaux de faire inscrire dans un projet de loi ou une proposition le fait que le délinquant raciste devienne un délinquant de droit commun et qu'il bénéficiera des mêmes droits et des mêmes devoirs et de la possibilité de se voir infliger la même sanction. C'est dire qu'en ces temps difficiles, ces temps où l'antisémitisme ne recule pas ô combien, où les propos racistes et haineux continuent à être déversés sur les réseaux sociaux, il y a parfois une lueur d'espoir, et tout le combat de la LICRA, je vous le dis, sera d'accompagner et de susciter cette volonté politique pour que l'on puisse enfin considérer à sa juste mesure la fracture profonde au lien social que le mot haineux, que le mot qui relativise, que le mot qui agresse, que le mot qui insulte provoque parmi nous. Il me semble que c'est l'un des enjeux majeurs des années qui nous attendent, et j'espère vous avoir convaincu de l'importance du combat. Le mot compte, et voilà ce que m'inspirait ce thème passionnant. Surtout ne jamais relativiser, regarder la réalité en face, apprendre de l'histoire, en tirer les conséquences et ne plus se voiler la face. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher Mario. Je cède immédiatement la parole à Pierre-François Veille, qui est le président du comité des justes de Yad Vashem et qui nous suit depuis des années avec une très très grande fidélité.
Contre le négationnisme. Je voudrais d'abord vous dire un mot du négationnisme. Longtemps, on a pensé que, au fond, l'histoire était faite par les vainqueurs. Et que, bien, comme ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire, l'histoire qu'on nous enseigne, elle est la leur, et les victimes y ont peu de place. Et j'allais dire, c'est l'histoire du XXe siècle qui nous a donné l'occasion de voir que l'histoire n'est pas toujours, et pas nécessairement, exclusivement celle des vainqueurs. Elle a failli l'être. Et pour un public très jeune, les plus âgés d'entre nous l'ont connu, les drames du XXe siècle ont failli être effacés, ont failli disparaître. Je parle du drame sur un niveau soviétique, ce qui s'est passé en Chine, mais je pense dans notre pays en particulier au drame de la Shoah. qui a lui été véritablement confronté dans les années 70 et 80 à une attaque idéologique frontale de négationnisme qui s'est terminée dans des procès. Les chambres à gaz ont-elles existé ou n'ont-elles pas existé? C'était devenu un débat historique. C'était devenu un débat, j'allais dire, de spécialistes, de techniciens. Et on pouvait soutenir une thèse et son contraire. Au point que le journal du soir présente, entre guillemets, les deux thèses face à face. C'est dire où on en était de l'état de délabrement intellectuel de notre société, quand à peine 20 ans après, 25 ans après, un crime monstrueux survenu sur notre continent, dans lequel un certain nombre des victimes ou des proches des victimes étaient toujours là, mais aussi de nombreux bourreaux étaient toujours là, eh bien, on était en mesure de débattre de cela comme d'un débat d'opinion dans lequel, au fond, il fallait faire son chemin. Alors, grâce à un certain nombre de survivants qui se sont levés, qui à ce moment-là ont compris que la promesse qu'ils avaient faite à leurs compagnons au moment où ils partaient pour les chambres à gaz, de raconter, d'être là, de dire, de ne jamais laisser oublier, eh bien effectivement, ils se sont levés, ils ont parlé. Mais en 1980, il n'y avait pas beaucoup de traces. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Il n'y avait pas tout le corpus, la matière historique dont nous disposons aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir le sentiment qu'au moins, ce combat-là était un combat gagné, qu'il n'y avait plus à le mener, et que le négationnisme, en tout cas, s'agissant de la Shoah, n'était plus à l'ordre du jour. J'avais cet optimisme, remplacé par, accompagné par d'autres éléments d'interrogation, nous y reviendrons, le relativisme, la banalisation. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire que le négationnisme, s'agissant de la Shoah, mais qui s'applique évidemment à d'autres phénomènes. Mario Stassi vous en a parlé. Que ce soit le génocide du Rwanda, que ce soit encore et toujours les interrogations, les débats qu'il y a sur le génocide arménien, qui, je crois, reste un débat incroyablement d'actualité encore avec ce qui se passe en Arménie. Enfin, c'est... Voilà. Je crois que tout ça nous montre à quel point ces débats prétendument historiques sont en réalité des débats politiques, des débats contemporains. Alors, pour conduire ces débats, moi je me réjouis de voir dans cette salle, certes, un certain nombre de gens qui, comme moi, sont des habitués de ces thèmes, mais aussi des jeunes, plein de jeunes gens, parce que c'est sur eux que nos espoirs reposent. Pas seulement parce qu'ils sont jeunes et que c'est devenu une banalité, chaque fois qu'un vieux prend la parole, de dire « les jeunes » et ils sont notre avenir. Mais parce qu'il y a un travail, il reste un travail considérable à faire. Et que c'est le travail des historiens, qui permet d'abord de combattre le négationnisme. C'est tout ce qui est fait pour endiguer les idées fausses, les affirmations fausses, les manipulations de l'histoire, elles ne peuvent être combattues que par des arguments historiques. C'est... alors je salue la présence de Jacques Semelin dans votre salle, mais ce n'est pas seulement lui. C'est parce que un certain nombre d'historiens ont pu répondre aux affirmations incroyables d'Éric Zemmour que son argumentation n'est pas vraiment allée plus loin. Mais c'est pas fini. Il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à démontrer. Il y a encore des choses à établir. Parce qu'il y a encore un certain nombre d'interrogations. Et qu'il y a un travail à faire sur cette histoire qui reste inconnue. Je préside le comité français pour Yann Vlachek. Une des fonctions du comité français pour Yann Vlachek est, vous le savez peut-être, la recherche et l'aide aux descendants, aujourd'hui c'est aux descendants, soit des personnes sauvées, soit des sauveurs, pour identifier les Français, puisque nous sommes en France, qui ont été des justes parmi les nations. C'est-à-dire qui, au regard de la définition extrêmement stricte donnée par le mémorial de Yad Vashem pour attribuer cette distinction, qui est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, juste parmi les nations, eh bien, il faut répondre très strictement à des critères extrêmement précis et qui sont contrôlés ensuite, d'abord par les commissions d'études et ensuite par la commission d'attribution qui est constituée d'historiens, de juges et présidée par un juge de la Cour suprême de l'État d'Israël. La loi qui a institué cette distinction de juste parmi les nations, cette loi, elle dit notamment que personnes qui ont sauvé doivent l'avoir fait au péril de leur vie. Qu'est-ce que c'est que le péril de sa vie? Il est certain qu'en Ukraine, nous savons aujourd'hui, qu'en Pologne, que dans les pays baltes, toute personne, effectivement, qui aidait des juifs ou des résistants, mais enfin des juifs en espèce, était menacée d'être immédiatement fusillée. La réponse, donc, au péril de sa vie ne pose pas de question. Mais qu'en était-il en Europe de l'Ouest et particulièrement en France? Qu'en était-il en France et quel était le risque pris par des gens dont on pouvait considérer qu'ils avaient aidé nommément de façon identifiée des personnes juives à survivre, leur avaient ouvert la porte, mais pouvaient-ils pour autant être qualifiés de justes parmi les nations? L'avaient-ils fait au péril de leur vie? Oui, on a considéré qu'ils l'avaient fait au péril de leur vie, parce que le péril, ce n'est pas seulement le risque réel, c'est la conscience qu'on en a. Et que, évidemment, les autorités d'occupation, mais aussi les autorités de collaboration, l'interdisaient et il y avait des poursuites. Nous savons aujourd'hui, mais ce n'est que parce qu'il y a eu un travail d'historien. Une thèse est en train de s'écrire sur ce sujet. Mais ce n'est que parce qu'il y a eu des étudiants pour le faire, des étudiants en histoire, des jeunes comme vous, qui se sont impliqués dans ces sujets. Nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre de Français ont été déportés pour la seule et unique cause, par des multiples causes, ont été condamnés et ou ont été déportés pour simplement avoir aidé des Juifs à survivre. Par conséquent, il y avait bien cette même situation en France que dans l'Est des territoires occupés. Nous ne le savions pas. Nous le savions, nous le supputions, nous l'imaginions, nous le considérions, mais nous ne le savions pas. Aujourd'hui, nous le savons. Et nous pouvons identifier ces personnes. Pourquoi dis-je cela ? Parce que nous le savons, parce qu'il y a eu des étudiants pour s'engager, des étudiants pour travailler, des étudiants pour faire ses thèses. C'est cela l'importance de ces assises. C'est effectivement, pardon, cher Frédéric, c'est effectivement de mobiliser des jeunes, de mobiliser des consciences, de mobiliser le travail sur l'importance de ce travail historique. Alors, ce qui est vrai pour la Shoah est encore plus vrai pour l'histoire, contemporaine, pour l'histoire, non pas du XXe siècle, mais du XXIe siècle. C'est parce que nous travaillons le plus vite possible grâce aux historiens, grâce aux efforts que nous faisons sur les drames de l'histoire, les drames qui nous entourent, que nous pouvons collecter cette information. Vous connaissez tous le mémorial de la Shoah, où Geoffroy Lagny. Vous devez savoir que ce mémorial, il résulte de la fusion de deux institutions. Une institution qui était un bâtiment, le livre, et puis une institution qui était le centre de documentation juive contemporaine, CDJC. Centre de documentation, de réunion de toute la documentation sur la Shoah en France. Eh bien, ce centre de documentation contemporaine, il faut savoir, et je pense que peu de gens le savent, Jacques Semelin, là, vous le savez évidemment, certains de gens le savent, mais je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, il n'a pas été créé en 1945, en 1946 ou en 1957. Il a été créé en 1943, au cœur de la tourmente, par Stetson, qui a eu l'imagination que la communauté juive française allait disparaître, qu'il fallait conserver la documentation, tout ce qu'on pouvait trouver, toutes les traces de cette élimination, toutes les traces de ce génocide. Vous savez pas encore, elle appelle ça un génocide, mais toutes les traces de cela. Curieusement, c'est en avril 43 qu'il a cette intuition. Très exactement au moment où les troupes nazies écrasent le ghetto de Varsovie, à 2000 km de Paris, mais à l'époque, évidemment, personne n'en sait rien. Eh bien, il a cette intuition. Et cette même intuition, elle existe également, ce qui n'est pas encore Israël, elle existe également en 1942-43, dans des premiers centres de documentation qui sont réunis à Tel Aviv, qui est à l'époque sous mandat britannique, en Palestine sous mandat britannique, et d'ores et déjà, les gens commencent à travailler sur la réunion de documentation. Eh bien, j'allais dire, relativiser les crimes de masse en temps de guerre, mais aujourd'hui nous sommes en temps de guerre. Nous le savons, nous sommes en temps de guerre, y compris en Europe, ce qu'on n'imaginait pas est revenu. Et il me semble que nous assistons déjà à des formes de relativisation des crimes de masse. Regardez le formidable, je ne sais pas s'il faut appeler ça conflit, lutte d'influence sur les réseaux sociaux, conduit par ce qu'il faut bien appeler la Russie, c'est-à-dire le gouvernement russe, qui consiste à disqualifier les Ukrainiens en les traitant de nazis, le combat idéologique dans l'autre sens se conduit par les Ukrainiens. Eh bien, si nous souhaitons ne pas être victimes de ces détournements idéologiques, de ces détournements des faits, eh bien, il faut connaître les faits. Et il faut, le plus rapidement possible, le plus vite possible, connaître, savoir, avoir les éléments, aller au plus près de ce qui s'est passé, pour effectivement ne pas, comme le disait Mario Stasi tout à l'heure, revenir et laisser penser que, eh bien, au Rwanda, au fond, il y a eu une guerre civile, où il y a eu un double génocide. Non. Avoir la vérité la plus proche, avoir les éléments qui permettent de s'approcher au plus près de la vérité. Alors, ce travail, il a été fait des années trop tard pour la Shoah. Il continue d'être fait, mais il peut être fait dans des cas de, pour des massacres qui ont lieu aujourd'hui. Et je ne peux que, encore une fois, inciter les jeunes qui sont ici à s'engager, à non seulement à militer, mais à engager ces travaux, à soutenir ces travaux historiques qui seuls nous permettent d'avoir les éléments permettant de combattre le négationnisme. Je vous remercie.
Dire quelques mots d'introduction et à pouvoir vous accueillir pour ce colloque qui est très important. Déjà, je l'aurais fait, je dois avouer, quel que soit le thème du colloque, juste par amitié envers Frédéric Ancel, les Américains ont une expression que j'aime bien qui est celle d'entrepreneur intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le monde des idées, mais qui est aussi un créateur, qui est un rassembleur. Je trouve que Frédéric fait avec ces assises du négationnisme, un travail qui est absolument formidable pour rassembler des experts, pour avoir un vrai colloque qui est à la fois universitaire et qui a en même temps des conséquences très opérationnelles, très politiques. Et je trouve que c'est très pertinent justement que ça ait lieu à l'Assemblée nationale. Donc vraiment le remercier, le féliciter, et je vous remercie à tous pour votre participation. Et puis, dire un mot juste pour vous dire que je partage vraiment l'importance fondamentale du travail que vous allez faire aujourd'hui, à la fois sur le plan naturellement universitaire, mais vraiment sur le plan géopolitique très concret. On est aujourd'hui dans une guerre sur le continent européen où la vérité, le rapport à la vérité est devenu une arme de guerre utilisée en particulier par la Russie. C'est pas nouveau, je crois que ce genre de régime autoritaire, en particulier la Russie de Vladimir Poutine, a compris l'évolution du rapport à la vérité liée notamment aux réseaux sociaux, aux bulles d'information dans lesquelles nous sommes aujourd'hui tous enfermés, l'impact que ça pouvait avoir sur nos démocraties. Le philosophe, journaliste Peter Pomerantsev, qui est un Britannique très brillant, a écrit un livre très intéressant sur la désinformation en Russie. Il a travaillé des années dans le milieu des télé-réalités en Russie. Il en a tiré un mémoire passionnant qui s'appelle « Nothing is true and everything is possible ». Et sa thèse est de dire que au fond, ce que fait la Russie n'est pas tant d'essayer de proposer une version alternative des faits. On a la version A et la Russie nous propose une version B, mais d'éroder la notion même de vérité. Tout est possible, on ne saura jamais rien avec certitude, et laisser toujours planer une forme de doute et de scepticisme qui est évidemment paralysant pour l'action politique. Et donc je crois qu'à cet égard, le travail de documentation, le travail d'expertise que vous faites tous est absolument fondamental, en particulier dans un contexte, dans le contexte actuel. On voit à quel point la mobilisation des opinions publiques, ce travail d'explication, de pédagogie sur ce conflit est absolument fondamental. Et à cet égard, d'ailleurs, je voudrais féliciter Frédéric et d'autres intervenants aujourd'hui en sont de très bons exemples. Je trouve que des experts, des universitaires, depuis un an, tandis que ce conflit a commencé, que cette guerre d'agression a commencé, font un travail absolument fondamental et remarquable d'explication sur, dans le débat public, sur les plateaux télévisés, auprès des dirigeants politiques, qui expliquent aussi en partie pourquoi on a aujourd'hui toujours des opinions publiques qui, malgré ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, malgré ce qu'on peut entendre de la part des mouvements extrêmes, est toujours fortement mobilisée en solidarité avec les Ukrainiens. Un autre mot, enfin, pour terminer sur cette question du négationnisme, je pense que l'une des spécificités de la guerre actuelle, je sais qu'elle est bien au-delà naturellement de l'Ukraine, mais j'en profite puisque c'est négationnisme en temps de guerre, vise aussi à nier l'identité même de la nation ukrainienne. C'est plus qu'une guerre territoriale, on va essayer d'aller conquérir des villes, mais de remettre en cause, en fait, par un travail de déconstruction, de reconstruction historique, l'identité ukrainienne même. Et ça, c'est très intéressant de voir que avant la guerre du 24 février, on a vu des textes de Vladimir Poutine, de Dmitri Medvedev, l'été dernier, qui font ce travail historique de reconstruction, de négation des racines culturelles et historiques ukrainiennes. Et donc là, une fois de plus, le travail que font les experts, les historiens, est absolument fondamental pour répondre à ce type de propagande. Non pas avec une contre-propagande, mais avec des faits, avec un travail de documentation méticuleux qui vient informer le débat public. Donc, je vous le dis, en tant que moi-même ancien du monde des think tanks de relations internationales, mais aujourd'hui dans l'action publique, ce travail, je pense, est vraiment précieux, crucial, continuer de le faire. En tout cas, vous pourrez vraiment compter sur mon soutien pour continuer à vous appuyer. Merci à tous et vraiment passer une journée, je vois des experts passionnants sur votre programme. Donc je sais que je viendrai, je ferai des petits allers-retours dans la journée entre l'hémicycle et ici. Mais vraiment passer une journée passionnante. Merci à tous.